Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Le 7 octobre 2023, il y avait ici, à Toulouse, le salon du livre policier, comme chaque année. Et à ce salon du livre policier, il y avait un auteur, donc, de policier, qui s'appelle Dror Mishani. Dror Mishani est un franco-israélien qui était invité donc par ce salon. Le 7 octobre 2023, il s'est passé l'événement que vous connaissez, une razzia invraisemblable, donc sur des peuplement israélien, et Dror Mishani a été évidemment immédiatement mis au courant de cet événement et a cherché à quitter Toulouse pour regagner Israël, sa famille, ne sachant pas quel serait l'avenir. Il a écrit Dror Mishani, le journal donc d'un écrivain en temps de guerre, qui s'appelle Aura du Sol, c'est publié chez Gallimard, hein, et je vous invite à lire ce livre, Dror Mishani, M-I-S-H-A-N-I, Dror Mishani. Donc ce sont les quelques mois qu'il va vivre à partir du 7 octobre, et donc les mois qui suivent. Il a fait un journal de ce qui se passait au jour le jour, donc d'une part ce qu'il a vécu à Toulouse, son départ de Toulouse, et ce qu'il a vécu, lui et sa famille, donc en Israël. Donc, journal d'un écrivain en temps de guerre, chez Gallimard, de Dror Mishani, Aura du Sol, que je vous invite à lire. C'est traduit de l'hébreu par Laurence Sandrovitch. Et je vais vous le dire simplement deux extraits, deux très courts extraits de ce livre de Dror Mishani. Par deux fois, dit-il, durant le XXe siècle, les Juifs ont essayé de vivre comme n'importe quel autre peuple, une fois lorsqu'ils ont tenté de s'assimiler en Europe et une fois en Israël avec la création de leur propre État. La première tentative s'est soldée par la Shoah. La seconde est-elle aussi vouée à l'échec? Si oui, nous ne pourrons, en l'occurrence, nous en prendre qu'à nous-mêmes. Avons-nous vraiment tout essayé? Et il pose la question. Et puis, plus loin, Dror Mishani dit ceci. Et nous allons nous arrêter sur cette dernière phrase de Dror Mishani, reprendre notre émission sur la poésie normalement, mais avec cette réflexion. Si au lieu, nous dit-il, d'une compétition à qui fera le plus de mal à l'autre, les deux peuples décidaient de régler leur interminable conflit par un concours de poésie, on aurait deux poètes nationaux, disons Mahmoud Darwish et Yehuda Amirai, qui se retrouveraient sur une scène au milieu d'un champ et se liraient mutuellement des vers, une joute verbale avec leurs mots comme épée. Alors, j'ai lu ça récemment, puisque j'ai lu ce livre de Dror Mishani il n'y a pas longtemps, et lorsqu'on m'a demandé quels événements l'Académie, par exemple, des Jeux Floraux pourrait mettre en œuvre, alors que je n'avais absolument pas lu Mahmoud Darwish, Dror Mishani parlant de Mahmoud Darwish et de Yehuda Amirai, j'avais proposé, et c'est un événement que nous ferons, j'avais proposé une lecture croisée du grand poète palestinien Mahmoud Darwish et du grand poète national israélien Yehuda Amirai. Voilà. Et je suis donc tellement heureux de pouvoir lire dans ce livre de Dror Mishani, Aura du Sol, donc ce journal d'un écrivain en temps de guerre, donc ce que j'avais immédiatement eu à l'esprit. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, ces fameux Mahmoud Darwish et Yehuda Mirai, figurez-vous que Delphine Horviller, vous savez, la femme rabbin, qui a écrit un très beau livre sur le 7 octobre, mais je vous en parlerai plus tard, une autre émission, elle a écrit dans le nouvel Obs d'octobre de cette année, donc le 2 octobre 2025, c'est le numéro 3185, dans une chronique donc qui s'appelait « La raison doit reprendre ses droits ». La raison doit reprendre ses droits. Et alors, écoutez bien ce qu'elle dit. « Les voix que j'ai envie d'entendre résonner aujourd'hui sont celles de poètes comme le palestinien Mahmoud Darwish ou l'israélien Yehuda Amirai. Tous ceux qui nous rappellent que si on ne replace pas l'humain au centre de débat et qu'on n'est pas capable de penser à l'autre en toutes circonstances, alors appeler la paix ne sert à rien. » Alors, voilà. Alors, vous rendez compte, moi j'avais demandé, donc des mois avant, et j'avais demandé donc qu'il y ait cette lecture croisée, et elle va être acceptée, donc on aura cette lecture croisée, on donnera cette lecture croisée ici à Toulouse, dans le cadre de l'hôtel de César, donc des Jeux Floraux, de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, la plus vieille académie d'Europe, hein. Et je suis tellement heureux de voir que ces grandes voix ont eu cette même idée que moi. C'est-à-dire, on ne pourra s'en sortir vraiment qu'en redonnant la parole au poète. Alors, cette parole au poète, ici, nous l'avons toujours donnée. Nous n'arrêtons pas de la donner. Hein. Ça fait plus de 40 ans que l'on nous parle, qu'on parle ici, que l'on vous parle des poètes. La semaine dernière, j'ai consacré une émission sur une revue de poésie, Nouveau Délit, parce qu'il faut mettre en exergue aussi les gens comme Cathy Garcia Canales, l'éditrice de cette revue, l'animatrice de cette revue, qui ont le courage donc d'opposer à tout, d'opposer la parole poétique. Et il y a un éditeur ici que je voudrais saluer et je vais y consacrer l'émission en définitive à son travail. Il s'agit des éditions RS. Alors, les éditions RS sont des éditions toulousaines, mais elles ont une collection qui s'appelle Po et Psy. Po comme poésie, et psy, comme psychologie, parce que les éditions RS sont spécialisées en principe dans les ouvrages de psychologie, mais les éditions Po et Psy, elles, se sont spécialisées dans la poésie, et en particulier la poésie du monde entier, donc dans les traductions des poètes du monde entier, et 9 fois sur 10, dans des poètes, dans des œuvres, qui ont des œuvres courtes, des poèmes brefs. Voilà. Et donc, on va rendre hommage au travail de ces éditrices de Po et Psy, qui sont Danielle Faugeras et Pascal Janot. Alors aujourd'hui, je vais vous citer un certain nombre de ces ouvrages, qui sont édités par Po et Psy. Ce sont de très, très jolis petits livres. Alors, ça tient, c'est un peu plus long, un peu plus gros, disons, que la paume d'une main. Donc, ce sont des livres de poche, qui sont présentés dans un très bel étui en carton, et qui sont toujours, donc, très bien mis en page, et qui sont également comme des livres d'artistes avec des illustrations qui sont vraiment souvent sublimes, hein, vraiment je pèse mes mots, et puis qui sont en bilingue, c'est-à-dire il y a la langue de l'auteur et la traduction française. Voilà. Ça demande un gros travail. Par exemple, aujourd'hui, on va vous parler d'un petit livre Donc ce sont des petits objets livres, hein, qui sont en définitive souvent considérés comme des livres d'artistes, si ce n'est que, bien entendu, ils sont imprimés, mais c'est tellement bien fait, c'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces ouvrages. En particulier, donc, alors, un mot quand même sur l'éditrice quand même principale, hein, Danielle Faugeras, qui vit et travaille dans le midi de la France, donc, puisqu'elle est dans le Gard. Et elle se consacre depuis 2006, donc, exclusivement à la poésie, et partageant son activité donc entre l'écriture, la traduction, l'édition et les lectures publiques. Elle fait un travail que nous devons saluer avec sa collègue Pascal Janot. Alors, je vais citer un poète chinois. Alors, Li Ginzo, c'est une poétesse chinoise. Ginzo, ça s'écrit Q-I-N-G-Z-A-H-A-O. Zhao, excusez ma prononciation. Et ça, le recueil s'appelle Dernières effluves de lotus rouge. Traduction de Marie-Josée Doutre. Alors, la poétesse Li Qinzhao, elle est née en 1084, elle est morte en 1155, et elle est universellement reconnue comme la plus grande poète chinoise de tous les temps. C'est l'héritière d'une prestigieuse tradition poétique qui a plus de 1000 ans d'existence, plus d'un millénaire, et elle a mis à profit la nouvelle forme prosodique du si, poème chanté à vers réguliers, apparu sous la dynastie des Song, pour exprimer d'une façon personnelle, résolument allusive et métaphorique, des expériences intimes, intensément éprouvées, d'une vie mouvementée. Alors, qu'est-ce que cette vie mouvementée de Li Qinzhao? Elle a été élevée à Bianjing, aujourd'hui ça s'appelle Kaifeng. C'est la capitale des Song du Nord, et elle a été élevée dans une famille cultivée de lettrés. Alors, les lettrés souvent, hein, enfin, même quasiment tout le temps, c'était toujours les hauts fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Et elle est elle-même poète, musicienne, peintre, calligraphe, experte en épigraphie sur bronze et pierre. Elle est érudite en histoire et en classique. Elle est critique littéraire, commentatrice politique. Alors, sa vie à Li Qinzhao est intimement mêlée aux événements de son époque. Donc un mariage heureux avec Zhao Micheng, c'est un jeune étudiant qui deviendra magistrat durant l'ère prospère de l'empereur Yu Zheng, où l'art des Song, la dynastie des Song, hein, S-O-N-G, atteint son apogée. Mais des tensions familiales, dues au clivage politique et aux luttes de pouvoir à la cour, qui amènent la relégation de Li Qinzhao et de son mari à Qinzhou. Alors ça se passait fréquemment, hein, c'est le pouvoir absolu, donc dès que vous déplaisez, eh bien, au mieux, on vous déplace. Donc ça va entraîner de multiples séparations du couple, au gré des attributions de postes. Elle connaît également l'exode dramatique lors de l'invasion des tribus manchoues. Alors ces tribus manchoues s'appellent les tribus Jurchen, c'est difficile à prononcer. Ça s'écrit J-U avec un tréma. R-E-C-H-E-N, Jurchen, qui met à sac la capitale. Donc les tribus mandchoues, paf, mettent à sac donc la capitale, anéantissant du même goût, même coup, sa prestigieuse collection d'épigraphies anciennes, de livres rares et d'objets d'art. Son mari, le haut fonctionnaire, il va mourir à 49 ans, atteint du typhus, alors qu'il rejoignait son nouveau poste. Et elle va connaître une vieillesse à Linan, c'est la nouvelle capitale des Song du Sud, et puis ensuite en divers lieux de la province du Zhejiang. Alors là, elle va être dans la nostalgie, dans la solitude et malheureusement dans l'amertume. Donc des 7 volumes de poèmes réguliers, ce qu'on appelle les Shi, S-H-I, et 6 volumes de poèmes chantés à vers irréguliers, des Si, C-I, petit C-I, publiés du vivant de Lin Qingzhao, il ne reste que très peu de choses, donc une quinzaine de C-H-I, Shi, et moins d'une soixantaine de Si. Donc, je vais vous lire donc de ce qui reste donc de cette auteur, donc qui est une femme poète qui était emblématique de la Chine du XIIe siècle. Souvent je revois le pavillon de la rivière au coucher du soleil. Ce sont des flashs. Pris par l'ivresse, nous ne savions comment rentrer. Recouvrant nos esprits, sur le tard, nous avions repris la barque. Mais par mégarde, elle s'enfonça profond dans des lotus en fleurs. Vous voyez, ce sont des images. Deux vers, il y en a deux, pas un de plus. De souvent très peu de mots, comme celui-ci, premier vers. Et nous, Doramé, deuxième vers, Doramé, point d'exclamation. Et nous, Doramé, Doramé. Faisant s'envoler toute une grève de mouettes et de hérons surpris. Ça, c'était souvent je vois. Et autre trace donc de recueil de cette poète. Sur le lac, le vent se lève. Sur le lac, le vent se lève, innombrables les vagues, l'automne touche à sa fin, plus rares les rouges, plus ténus les parfums. Premier poème, deuxième poème. L'éclat de l'eau, les teintes des montagnes s'immiscent en nous à un point que les mots sont impuissants à dire. Donc là, ce sont des poèmes de 4 vers, et poèmes qui dit combien la nature, en définitive, est supérieure à la langue, puisque les mots ne peuvent pas arriver à dire cet éclat de l'eau, cette teinte des montagnes. Les graines de lotus sont déjà de vieilles feuilles. Une claire rosée baigne lentille d'eau et joncte des berges. Donc c'est une poésie de célébration, célébration de la nature, célébration de la vie. Assoupies sur le sable, mouettes et aigrettes ne tournent pas la tête comme si elles aussi regrettaient que l'on reparte si tôt. Voilà, donc beaucoup d'une espèce de d'humour. Voilà, donc les mouettes, elles ne tournent pas la tête parce qu'elles vont regretter qu'on s'en aille. Dernier refuge de Lotis Rouge, donc encore titre du recueil. Dernier effluge de Lotis Rouge, tapis vert jade de l'automne, dénouant délicatement ma robe de soie, en solitaire, je monte sur la barque orchidée. Donc des images aussi, toujours des images, des espèces d'instantanées, de photographies instantanées, où comme ça, la langue, le court poème permet d'arrêter un instant, un fragment de la vie et de dire combien ce fragment contient de richesse, de beauté. Depuis les nuages, qui m'enverra un livre de brocart? Un vol d'oie sauvage par sa forme t'évoquera quand la pleine lune brillera sur le pavillon ouest. Les fleurs par nature tombent en voltigeant, l'eau par nature s'écoule, un seul amour partagé, deux lieux de chagrin impuissant. Ce sentiment, impossible de m'en défaire, il peut bien quitter mon front, il n'en occupe pas moins mon cœur. Et puis nous allons terminer sur « Dans le ciel, la rivière d'étoiles gravite ». Dans le ciel, la rivière d'étoiles gravite. Chez les humains, stores et tentures pendent. Mon oreiller et ma natte sont froids et pleins de traces de larmes, de verre, hein, simplement. Voilà. Mon oreiller et ma natte sont froids et pleins de traces de larmes. Donc, il y a là une tragédie, mais on ne sait rien de cette tragédie. Mais il y a cette image fulgurante de l'oreiller, d'une natte froide, hein, c'est terrible, une natte froide, un oreiller froid, et ils sont froids, mais on voit que quelqu'un a pleuré sur cette natte et sur cet oreiller. Sur le point de dénouer mon vêtement de soie, je me demande comment je vais passer la nuit. Bon, ça c'est de l'humour aussi, cet humour de la poète chinoise, hein, un humour très fin, dans, sur le point de dénouer, je me demande comment je vais passer la nuit. Vert jade, mais un humour aussi qui est teinté d'inquiétude. Vert jade, les petites capsules de lotus appliquées, fil d'or pour les feuilles clairsemées. Comme avant, le temps, comme avant, mes vêtements. Seuls mes états d'âme ne sont plus comme avant. Alors, le chinois dit rivière d'étoiles, c'est pour la galaxie qu'en Occident on appelle couramment la Voie lactée. Et dès la plus haute antiquité, elle a été représentée en Chine comme le point de suture des deux hémisphères qui réunit et forme la sphère céleste, la voûte céleste, hein, et la voie lactée, et les objets célestes qui la composent, se mouvant selon des parcours circulaires, ces parcours circulaires qui sont soumis à la gravitation. Ça, c'est de la physique. Voilà, donc Li Qinzhao, dernier effluve de Lotus Rouge, traduit par Marie-Josée Doutre, et c'est, pardon, avec les illustrations, pardon, de Marie-Josée Doutre, plasticienne, et au contraire, c'est Johanna Magritte Charlat qui est la traductrice. Alors, on l'a traduit vers l'anglais, mais elle est diplômée de chinois et de japonais, de l'université d'Edinburgh. Voilà. Johanna Marie Charlat qui avait fait cette traduction, Marie-Josée Doutre, est la plasticienne donc, qui a illustré merveilleusement ce petit livre donc, de Pau et Psy, qui est très très agréable et que je vous invite donc à vous procurer. En tout cas, c'est une œuvre très originale et c'est quand même très bien. Il faut saluer le travail qui a été fait par cet éditeur. Et là, on va passer à un autre pays. On va revenir en Amérique latine, comme la semaine dernière, avec une poète, aussi une femme poète, Elvira Hernández, qui est largement reconnue en Amérique latine. Son nom de plume, de Rosa Maria Teresa Adriosala Olave, s'est vu décerner donc dans son pays, et alors ce pays c'est le Chili, le prix national de poésie en 2024, hein, c'est récent, hein. Et donc Elvira Hernández, c'est la deuxième poète à recevoir ce couronnement après, devinez qui, Gabriela Mistral, hein, qui avait pris le nom de Mistral pour, en fonction de Frédéric Mistral, hein, un hommage à Frédéric Mistral. Voilà, qu'il avait eu, lui, ce grand prix national de poésie, en 1951. Elle l'a eu en 2024. Et donc, la trajectoire poétique, Gabriela Mistral, donc 51, et Elvira Hernández, 2024. Alors, la trajectoire poétique d'Elvira Hernández, donc, je disais, elle est née, elle, l'année, d'ailleurs, où Gabriela Mistral recevait ce prix. C'est rigolo, hein. Elle est née en 1951 à Lébou, c'est dans la province d'Arauco, c'est dans le sud du Chili. Et ça remonte donc aux années de la dictature. Son écriture, elle est traversée de courants contraires. Alors, le courant, qui est le courant impétueux, c'est le fruit d'un arpentage lucide et têtu qui fait émerger la mémoire de Santiago, des décombres de la révolte et de la répression. Et l'autre, donc c'est un côté beaucoup plus apaisé, il est marqué par la concision et une attention méditative aux menus détails du quotidien, le quotidien. Le quotidien qui est toujours prétexte à la poésie, contrairement à ce que l'on croit et aux idées reçues, hein. Et donc, dans les deux cas, que ce soit la répression, la révolte, la répression, et puis cette contemplation du quotidien, donc dans les deux cas, ce qui frappe et touche immanquablement, c'est cet art de l'ironie, alors une ironie légère, désinvolte, hein, qui télescope les discours politiques et médiatiques. Alors, son recueil le plus célèbre, à Elvira Hernández, s'appelle La Bandera de Chile, dont le drapeau du Chili. C'est une variation caustique autour du drapeau et des symboles nationaux. Il a circulé en version miméographiée pendant les années de plomb, les années de chape où on ne pouvait pas parler. Et en 1992, paré au Chili, Santiago Huaria, un abécédaire de la capitale, sous un titre qui dialogue avec le Mapudungun, c'est la langue des Indiens du sud du Chili. Pararos desde mi ventana, en 2018. Donc, ce livre est une méditation poétique sur la fragilité de la nature, où se mêlent l'intime et le politique, le microcosme du jardin et les enjeux écologiques globaux, ainsi que des variations autour de l'envol, du chant et de la matérialité des noms d'oiseaux. Voilà. Et nombre des ouvrages ont été publiés en Argentine, en Colombie, au Pérou, au Mexique. En 1916, paré en Espagne aux éditions Lumen, Los Trabajos y los Días, voilà. Les travaux et les jours, qui regroupent 35 années de trajectoire poétique, donnant à apprécier ces différentes inflexions. Donc, parallèlement à ces écrits poétiques, Elvira Hernandez a développé une pratique de livre objets et d'essais, essentiellement sur des poètes de la néo-avant-garde chilienne, et ses principaux recueils sont Arre, Meditaciones Físicas por un Hombre que se fue, Carta de Viaje, La Bandera de Chile, El Orden de los Días, Santiago Guaria, Album de Valparaiso et Cuaderno de Deportes, et enfin Pájaros desde mi Ventana. Voilà. Alors, très beau livre aussi, format à l'italienne. Et donc, ce livre, c'est une sélection de recueils de Pájaros desde mi Ventana. Voilà. Je vais vous lire ces extraits, donc avec illustrations, toujours illustrations magnifiques. Hein. Très beau livre, hein. C'est vraiment un livre à offrir parce que vraiment c'est très très beau. Très 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 beau. Des oiseaux de passage. Aves de paso. Sí, eso somos, pero nos hemos acostumbrado a comportarnos como monumentos, y así nos va. Oui, c'est ce que nous sommes, mais nous avons pris l'habitude de nous comporter en monuments, et nous en sommes là. Ritual. Los pájaros llaman a la lluvia y yo me sumo a su fiesta con estas palabras. Les oiseaux appellent la pluie et je me joins à leur fête avec ces mots. Fraternité de la tourterelle. C'est dans l'air du temps. Ne pas manger ni laisser manger. Pourchasser avant tout pour chasser. Ouvrir les ailes pour occuper l'espace que tout succombe sous ses beaux yeux. Tout ce qui vole n'est pas. Tout ce qui vole n'est pas oiseau. Parfois, ta pensée atteint un peu de hauteur. Alors bon, vous la voyez, l'ironie de cette poète. Alors quand on dit ta pensée, c'est peut-être la sienne, hein. Ça reste peut-être à elle, hein. Piège, trampa. Las luces artificiales nos mal guían. Son linternas para no orientar. Orbitamos por el asfalto. No nos miramos en un espejo. Nos vemos en la pantalla. Ellas iluminan el mundo. Estamos enviscados. Piège. Les lumières artificielles nous égarent. Lanterne faite pour ne pas orienter. Nous orbitons à ras de bitume. Ce n'est pas notre reflet dans un miroir. C'est nous en capture d'écran. Elles éclairent le monde et nous voilà pris dans la glu. Ah, c'est vrai que nous sommes piégés par les écrans. À l'approche de l'été, avec les fortes chaleurs, les vautours quittent les collines pour la ville. Ils veulent être au plus près de ce qui commence à se décomposer. Tupou. Il ne reste rien des libellules qui ont tapissé les pare-brises dans les années 60. Les insecticides en sont venus à bout. À leur place, il y a ces petites machines à hélices qui quadrillait les airs pour nous fumiger comme des poux. Ah. Poème écologique. Oiseau non identifié. Midi, grand bleu. Soudain une flèche, une ombre qui raye l'espace, une chauve-souris, peut-être de la luminosité. Verano. Este verano no trae ni una sola golondrina. Lo que se oye son patos que caen asados como extraña lluvia. Été. Aucune hirondelle n'aura fait ce printemps. Ce que l'on entend, ce sont des canards qui tombent roussis en étrange pluie. Relámpago alado. Algo cruza, algo pasa por mi cabeza, algo está en algún lado. De aquello no queda nada, ni aire vibrando en el aire. Éclairez-les, quelque chose passe, quelque chose me traverse la tête, quelque chose quelque part, et il n'en reste rien, pas même de l'air vibrant dans l'air. Sur les hauts fonds. Sur un pied, le héron soutient le soir. Voilà, très belle image. Ça fait penser un peu à un haïku, ça, hein, de ce poète chinois, ça. Sur un pied, un vers, c'est le premier vers. Deuxième vers, le héron. Troisième vers, soutient le soir. Sur un pied, le héron soutient le soir. Voilà. Dans une goutte d'eau. Dans une goutte d'eau, les oiseaux se rassasient, se rafraîchissent, se regardent. Il est temps de nous transformer, se disent-ils. Jadis, nous fûmes dinosaures. Voilà, toujours cet humour, cette ironie. Hein. Oiseaux calcinés. Ces oiseaux, leur nom n'a plus d'importance, volent aussi. Ce sont des cendres. Personne ne leur dira « phénix » ou « Lazare, lève-toi. » Toujours cet humour, cette ironie permanente. Veille de Noël. Aujourd'hui, avec la lumière du matin, le tarier des prés est venu frapper à la fenêtre orientale. Nous croyons encore au présage et nous abordons le jour dans l'expectative. Une scène, tiens. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Un long été ardent. Les bois ont été décimés. Les futaies grésillent. C'est le jour des pinèdes, eucalyptus en flammes, bougies dégoulinant leur Merry Christmas. Les camions-citernes défilent sur la route de l'alerte jaune. Les oiseaux viennent du sud, l'alerte rouge entre les dents. Voilà. -30,2°C. J'entends le cri rauque des mouettes, comme si on allait les équarrir, ou comme si elles avaient chapardé les effets spéciaux d'Hitchcock. Ainsi sont les mirages. Je n'arrive pas à me figurer où elles projettent leurs plongeons sur cette terre qui s'assèche. Piaï, mot que j'ai trouvé dans un vieux livre, et c'était comme un oiseau empaillé. Ornithologie, pas le temps de penser à la plumitive que je deviendrai. Le temps est une bouchée qu'on n'arrive pas à savourer. C'est lui qui nous mâche. Hier, j'ai perdu quantité de plumes et pas mal de dents. Demain, je serai déplumé. Si je le pouvais, je rasserai ce qui me reste de plumage. Et alors seulement, je pourrais suivre l'exemplaire chemin de l'aigle. Cette fois, vas-y à la fronde. Un feu roulant nous est tombé dessus. Impossible de relever la tête. plane au-dessus de nous comme des missiles téléguidés l'unique et multiple mot « profit » dans sa trajectoire mortifère. Pour lui, nous sommes une cible facile. Il laisse tout un sillage de séduction. Le profit fait partie de la condition humaine. C'est un mot qui se décline en cachette, mais pas pour de rire. Il trouve défenseur parmi les humanistes et à la boucherie. La rampe, depuis laquelle il est lancé, n'est pas faite de bouche modulante. Elles balbutient jour et nuit leurs petites berceuses et nous allaitent de leur lait épais, leurs liasses de billets qui sentent leur anse. Pure protéine, ça nous fera grandir, qu'elles disent. Cette fois, vas-y. Vas-y à la fronde. Voilà, donc une charge contre le profit. Hein, voilà. Puisqu'il trouve des défenseurs parmi les humanistes et à la boucherie. Avant le chant du coq. Avant le chant du coq, personne ne saura rien. On fermera les volets. À l'intérieur, on ouvrira les yeux pour rien. Avant le chant du coq, c'est en général l'heure des exécutions. Ensuite, le jour se lèvera avec ses mensonges. Alors, c'est un poème tragique, parce que c'est le Chili quand même. Hein. Et elle a connu le Chili donc au pire temps de la dictature de Pinochet. Et donc, les exécutions, ce sont des exécutions dont elle a eu connaissance, dont elle a été le témoin. Voilà, avant le chant du coq. Et puis un dernier pour finir, ces choses qui nous plaisaient. Nous sortions de la maison quand le vent frappait, l'averse éclatait. Nous étions comme des feuilles arrachées à de grands arbres. Un autre destin, semblait-il, nous tendait la main. Dans les rues, nous courions, esquissant notre propre danse. Je me sentais sous le ciel, mouillé, comblé, trempé comme un pinson. Voilà, nous arrêter sur cette note plus gaie. Donc, je vous rappelle le titre, « Tout ce qui vole n'est pas oiseau » de Enzira Hernandez. Donc, c'est aux éditions Poepsi. C'est un livre qui vous coûtera, je suppose, comme les autres, 15 euros. Mouette au-dessus de Minsk. Alors là, il s'agit donc d'un petit livre coffret, donc un petit livre si agréable, donc toujours deux éditions Poepsi, de Ouladzimir Tsiapan. Alors, excusez ma prononciation, c'est un Biélorusse, hein. Ouladzimir Tsiapan, ça s'écrit Stsiapan. Alors, Ouladzimir Tsiapan, il est né en 1958 à Kastchouchkovska, c'est en Biélorussie, et c'est un artiste, un écrivain, un poète, un journaliste biélorusse, bien entendu. Il est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Gebau, HLEBAW, puis de l'Académie des Arts de Biélorussie. Il a pratiqué le graphisme de livres et pendant presque 20 ans, il a travaillé donc pour la télévision biélorusse à la rédaction des programmes littéraires et dramaturgiques en tant que rédacteur en chef, auteur de programmes, présentateur, scénariste documentaire et de longs métrages. Et depuis ses études, Stapian s'adonne à la création littéraire. Donc il a débuté avec des poèmes qui sont parus dès 1982 dans un hebdomadaire qui s'appelle La littérature et l'art, puis dans toutes les revues littéraires biélorusses et dans quelques recueils collectifs. Alors, le présent recueil, c'est un recueil de haïku, ça vous étonnera pas, parce que cet éditeur Poepsi, évidemment, est spécialisé un peu dans tout ce qui est poème bref, est paru en 2018 dans la petite bibliothèque du magazine Le Verbe. Aujourd'hui, Vladimir Tsiatspan est surtout connu comme maître de la prose. Il est l'auteur de recueils de nouvelles, dont certains ont été primés, et de deux romans. Et sa prose et ses poèmes ont été traduits vers le russe, l'ukrainien, l'anglais, l'allemand, et maintenant le français. Deux mots pour la traductrice, c'est Yana Yultsayeva. Donc, elle est née en 1991 à Narytchabiarussie. Elle a obtenu son diplôme de l'État de Biélorussie, où elle a étudié les langues et littérature slaves, la traduction et la psycholinguistique. Voilà. Et puis, les illustrations sont de Alain Blancard. C'est un Marseillais qui est né en 49, donc, et qui vit dans les Alpes depuis plus de 35 ans. C'est un artiste peintre et photographe qui expose régulièrement depuis 1995. Et son travail photographique consiste à saisir des instants de réel. Donc ça colle très bien avec, effectivement, les fragments, la brièveté des poèmes, donc, de ce poète biélorusse. Alors, je vais vous les lire. Il est empilé, le vieux bouleau, mais le nichoir, on va le mettre où ? Trois vers. Simplement, toujours trois vers. Trois vers. Le téléphone sonne. En pleine nuit, je pense, pourvu que ce soit une erreur. Sur la vitre embuée, je mets ma signature, comme si j'avais peint le parc moi-même. Dans un coin de la cour, tranquille, il finit son temps, le petit tas de neige. Vous voyez ? Donc des photographies, des instantanées. Si chaude la pluie que sur les barbelés poussent des petites feuilles. Sur le sentier net, dans une feuille de l'an passé, au vent printanier. Arrêté juste le temps de caresser l'herbe, je poursuis ma route. Cerisier en fleurs, du côté ensoleillé du nouveau cimetière. Je marche sur l'avenue en évitant les lombriques, averse d'avril. J'avoue que c'est rarement marché sur une avenue où il y avait des lombriques. Mais c'est peut-être le cas en Biélorussie. La voilà qui dort, ma fille, son portable en main, âge de transition. Vous voyez, rien n'échappe à la poésie. Bon, il voit sa fille endormie, mais elle s'est endormie avec le portable à la main. Et si nos enfants, maintenant, ben, voilà, c'est comme ça qu'ils s'endorment. C'est l'âge de la transition. Difficile de croire que cette fleur délicate va devenir une pomme. Comme hypnotisée, la chatte fixe au plafond la toute première mouche. Voilà, l'instantané, on voit très bien hein, cette chatte qui est immobilisée, comme fascinée, hypnotisée, donc, par ce qu'elle regarde, c'est la mouche. Donc tout son instinct de chasseur est en alerte, et le poète, lui, saisit cet instant où cette chatte regarde le plafond, parce qu'il y a une mouche au plafond. Aux fenêtres de l'école flottaient des nuages, Les enfants regardaient à travers, ça aussi c'est beau, les enfants qui regardent à travers les nuages, hein, aux fenêtres de l'école, c'est-à-dire que ils essaient de s'évader aussi quand même. Hein. C'est pas bon pour l'instituteur, ça. Ma femme, tout était si calme. Dans le parc, sur ses genoux, je me suis endormi. Moment de sérénité absolue. C'est peut-être vrai que sous les cerisiers blancs, l'âme s'éclaircit. Il me semble que c'est hier que mon père m'a fait un chapeau de papier. Voyez, la simplicité absolue de ses poèmes. Comme elle sent le bonheur, cette petite feuille brisée d'accords odorants. Au creux de ma main, je le sens, il bat le cœur du petit gardon. Ah. Donc, dans ces trois vers, on voit quand même une... Le petit gardon, c'est donc un petit poisson, hein, un poisson de mer, tout petit poisson de mer, plus petit que le goujon. Et elle l'a dans la main, et elle sent le cœur qui bat. Il y a des photos où on dirait que je suis de trop, surtout celle de mer. N'aime pas trop son image. Au-dessus du seau vide volait une phalène blanche dans un vent brûlant. Dès le point du jour, le vent feuillettait les arbres, de droite à gauche. Voilà, vous voyez le ton de cette poésie. Bon, poésie contemporaine, hein, bon, toute la poésie contemporaine reprend ça, des poèmes très brefs, des images, des petits flashs, des petites pensées, comme ça, quelque chose de surprenant. Hein. Et donc le poète biélorusse a adopté voilà, cette façon. Mon Dieu, mais pourquoi? Quel besoin de tant de croix? Soirée silencieuse. Voilà, je vais m'arrêter là. Mouette au-dessus de Minsk. C'est aussi très très intéressant donc, à lire donc, dans la collection de Vladimir Tsiapan. Aux éditions Pau et Psy, 15 euros comme les autres. Et voilà, et donc nous allons en finir là. Il y en avait d'autres, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Donc je voulais rendre hommage donc à ce travail des éditions Pau et Psy. Vous trouverez tous les renseignements sur ces éditions et sur ces ouvrages sur notre site, le site qui prolonge cette émission et sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions, lespoètes.site, lespoètes, un point, site, S-I-T-E. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, à 17h.